on s'emploie pour vous. Le podcast des juniors d'Alsace.
On s'emploie pour vous et aujourd'hui, on va vous harceler. Alors faites gaffe jusqu'à la fin. Non, on rigole. On va parler en revanche du harcèlement avec notre invitée Francine Friedrich. Elle est docteure en philosophie et ce harcèlement, on en entend de plus en plus parler depuis quelques années. Mais on ne sait pas forcément ce que c'est, quand ça commence, comment le détecter, comment accompagner les victimes et pourquoi pas comment accompagner les harceleurs pour qu'ils se calment un petit peu. Avec nous, celui qui ne me harcèle jamais, sauf si je lui fais pas un chèque, c'est le président Daniel Rettler. Salut Daniel.
Salut Emmanuel.
Et donc Francine Friedrich. Bonjour Francine.
Bonjour Emmanuel.
Francine, je le disais en introduction, le harcèlement, c'est quoi? À partir de quel moment peut-on véritablement parler de harcèlement?
Alors effectivement, c'est une très bonne question parce que une brimade ou une humiliation qui ne se répéterait pas ne serait pas du harcèlement. En fait, le harcèlement moral, c'est soumettre, on pourrait même dire sans répit, parce que ça peut s'accélérer au niveau du rythme, eh bien, c'est soumettre une personne à des agissements répétés. Et cette notion de répétition est très importante parce que ça nous permettra justement de repérer s'il y a harcèlement ou bien s'il y a taquinerie, etc. Et donc, l'important, c'est d'avoir... D'ailleurs, on trouve justement ces éléments et dans le Code du travail et dans le Code pénal. Ces agissements répétés, eh bien, doivent... être centré sur le non-respect de la personne. Et donc là, on voit qu'il y a une attaque à sa dignité. Il y a également une... cela provoque également une altération de sa santé physique ou psychique. Et puis, sur le plan professionnel, cela peut altérer et compromettre largement son avenir professionnel. Donc, il faut que ce soit répété.
Vous évoquez la taquinerie.
Oui.
J'imagine qu'entre la taquinerie et un propos de harcèlement, c'est fin comme du papier à cigarette.
Alors, ça peut être fin parce qu'une personne peut, comme vous le dites, taquiner quelqu'un. Et puis, lorsque la personne est un peu choquée, le harceleur, au départ, peut dire « Mais écoute, c'est de la plaisanterie ». Et en fait, comme la limite est ténue. Mais quand il y a répétition, c'est ça. Le harceleur est un manipulateur. Donc, il pourra, on a l'impression, taquiner dans un premier temps. Et puis, très vite, ça deviendra de l'humiliation. Et puis, très vite, la personne vraiment se sentira souvent devant les autres choquée de ce genre de propos. Donc, ça peut commencer par du presque rien. Et à partir du moment où cela se répète fréquemment, eh bien, la personne peut être enfermée dans une position de victime. Et plus elle se mettra dans cette position et plus elle montrera sa vulnérabilité, eh bien, plus l'autre continuera à agir. Parce que justement, le harceleur a souvent un ego surdimensionné. En fait, il pense que rien ne lui résiste. Et oui, on verra comment est le processus extrêmement pervers.
Est-ce qu'on peut donc être harceleur malgré soi, à l'insu de son plein gré, comme dirait Richard Virenque?
Je pense que, étant donné, j'insiste beaucoup sur la notion de répétition, je pense que le harceleur potentiel devra se rendre compte que le dialogue n'est plus très possible. Justement, lorsque la communication est pervertie par celui qui juge et celui qui veut se défendre. Donc, effectivement, il y a des profils pathologiques où justement, alors on parle souvent des pervers narcissiques ou des pervers paranoïaques. La différence entre les deux, c'est que le pervers narcissique, lui, ment d'une manière éhontée, et le pervers paranoïaque, lui, croit profondément à ce qu'il dit. Donc si la personne qui harcèle est un pervers paranoïaque, il peut être certain de son bon droit. Et c'est pourquoi c'est vraiment très très difficile de les démasquer.
J'imagine bien, ça fait presque peur. En sens inverse, oui. Si on parle des victimes,
oui.
Un salarié, un collaborateur, un employé qui fait bêtise, mais qui est persuadé, lui, de ne pas faire de bêtises et se dit harcelé. s'il se fait enguirlander à chaque fois qu'il fait une bêtise, il peut se croire harcelé désormais.
Oui.
Là aussi, c'est très ténu.
Alors, justement, pour repérer qu'il y a harcèlement ou qu'il y a simplement analyse d'une situation qui n'est pas en phase avec les objectifs. En fait, quand je vous disais que la communication avec un harceleur n'est pas possible, le harceleur n'est que dans le jugement et dans les reproches. Pour démasquer un harceleur, lorsque le salarié se dit « mais en fait, j'ai peut-être pas mal fait », il faut construire une communication basée sur des faits. Et c'est justement le seul ennemi du manipulateur. Il y a un très bon livre de Thierry Breton qui s'appelle « Convaincre sans manipuler ». Et effectivement, ça va être justement une piste. Imaginons, lorsque la personne a l'impression d'être harcelée, elle va se dire « attends, on parle de ça, explique-toi, je ne comprends pas ». Ou inversement, un supérieur hiérarchique peut avoir le bon droit pour dire au salarié « ton travail ne me convient pas », plutôt que de dire « encore une fois, tu as mal fait ». Le fameux « tu qui tue ». Et dès qu'on est dans le jugement, on va très vite vers le harcèlement. Tandis que lorsque le supérieur hiérarchique peut dire « écoute, voilà ce que je viens d'observer, je n'ai pas très bien compris, explique-toi ». Et là, on voit que c'est une démarche éminemment professionnelle et non pas signe de harcèlement.
Est-ce que cette notion de harcèlement, elle a évolué depuis quelques années? En préparant l'émission, Daniel, on se le disait, ça a toujours existé, effectivement, le harcèlement, jusque dans les cours de récréation, finalement. Mais on a l'impression que les affaires de harcèlement sortent de plus en plus et qu'il y a une évolution des mœurs.
Alors, tout d'abord, il y a eu un moment où Marie-France Irigoyenne, en 98, a sorti un livre qui a été vendu à X exemplaires, qui s'appelle « Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien ». Et en lisant ce livre-là, beaucoup de personnes ont compris le processus, parce que Marie-France Irigoyenne, dans ce livre-là, qui est psychiatre, dans ce livre-là, elle évoque aussi bien le harcèlement moral au travail que le harcèlement moral dans la vie perso. Et donc, l'art du harceleur, entre guillemets l'art, c'est de transformer la victime en coupable. Et donc, elle nous a bien montré, et c'est pour ça que des langues se sont déliées, parce qu'ils se sont rendus compte que le harceleur avait fait chuter l'estime de soi, avait transformé donc ses victimes en coupables. Et donc, vous savez que dans notre culture, on est très sensible à la culpabilité, on est très sensible à tout cela. Elle a montré que la seule manière de repérer cela et de se défendre, c'était justement de se centrer sur des faits et de reconstruire, et ça on pourra le voir après, une démarche. Et alors attention, quand le harceleur voit que sa victime lui échappe, il va resserrer les boulons. Hein. Et donc le processus, on pourrait dire, est le même dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, parce que ces pervers-là vont justement puiser l'énergie de l'autre. On a déjà bien vu dans la vie professionnelle un harceleur qui... En quelque sorte, c'est un parasite qui puise l'énergie de l'autre et la transforme en coupable. Donc c'est extrêmement pervers. Extrêmement pervers.
Oui, Daniel.
Comment peut-on devenir harceleur? Est-ce qu'à la base, il y a des personnes très faibles ou qui ont subi des enfances compliquées? C'est quoi le chemin?
Alors, il n'y a pas. Toute personne est singulière et il n'y a pas une équation qui va dire « tu as vécu ça dans l'enfance ». Par exemple, je ne sais pas, j'invente, tu as eu un instituteur qui t'a ridiculisé devant les autres et donc tu veux te venger et tu vas devenir harceleur. Moi, je crois beaucoup à la singularité, je ne crois pas aux modélisations dans ce domaine-là. Je pense que l'histoire de chacun est différente, mais tout va dépendre de... Qu'est-ce que je fais de la situation? Vous voyez, c'est un petit peu comme les enfants battus. Certains vont battre et certains dire plus jamais ça. Donc, il n'y a pas un mode unique. Il se peut que l'enfance ait été très préservée et que, pour des raisons environnementales ou culturelles, à mon sens, il n'y a pas d'équation. On ne pourra même pas dire que une personne qui a été humiliée, voire battue, qu'on reproduira ce schéma. C'est tout, alors là on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est tout toutes les observations qui ont été faites par Amy Werner pour tester la résilience des enfants, en observant justement un très grand nombre d'enfants qui avaient été élevés dans des situations catastrophiques, mais un tiers de ces enfants construiront un comportement résilient. Donc un harceleur, il peut y avoir 1000 raisons, conscientes ou inconscientes, qui vont faire qu'il le devienne. Mais je pense que ça peut se soigner, et un harceleur ne l'est pas à vie.
Et il y en a dans tous les milieux sociaux.
Il y en a absolument dans tous les milieux sociaux, parce qu'on ne peut pas simplement dire qu'on est harcelé uniquement par un supérieur hiérarchique. On peut être harcelé par un collègue, on peut être harcelé par un client, on peut être dans le cadre professionnel, et puis on voit...
Et puis même un supérieur peut être harcelé par quelqu'un
Donc il n'y a jamais de schéma unique, mais comme vous l'aviez repéré, on en parle de plus en plus. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est très bien codifié dans le Code du travail et dans le Code pénal. On a, alors vous allez me dire, ça va être très difficile de rassembler des faits pour pouvoir dire, voilà, je suis harcelé, et ça peut aller effectivement jusqu'à des sanctions importantes. Maintenant, évidemment, pourquoi on en parle beaucoup plus ? Parce qu'il y a les médias qui s'en sont saisis, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Je fais juste une parenthèse, c'est pas le cadre au travail, mais regardez ce qui se passe au niveau des adolescents. Où effectivement, oui, il y a eu des tas d'histoires montrant qu'une adolescente ou un adolescent harcelé, ça peut aller jusqu'au suicide. Et ce n'est pas de la littérature. Il y a des personnes harcelées. Le processus est tellement un processus de dévalorisation que la personne va dire « je ne suis rien, je ne suis plus rien ». Et puis, ça fait tache d'huile. On ne peut pas dire qu'elle sera harcelée dans son cadre professionnel et dans son cadre personnel, tout ira bien. C'est une toile d'araignée où la personne est complètement prisonnière de tout cela. Et alors, avant d'aller jusqu'au suicide, il y a des phénomènes psychosomatiques très graves. Et puis, pour s'en relever, c'est très, très difficile.
Un mot, vous évoquiez les harceleurs au travail, dans la vie personnelle. Sur ces schémas, est-ce que quelqu'un qui va harceler ses collègues, quel qu'il soit, subordonné ou pas, sera quelqu'un qui va harceler aussi dans sa vie privée, ou au contraire, il peut y avoir des gens qui ont deux visages finalement?
Absolument. Et ça, c'est presque une attitude quasiment schizophrénique. C'est parfois presque Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Moi, j'ai déjà vu dans ma vie professionnelle, par exemple, un chef, disons un responsable d'équipe, qui est vraiment terrorisant. Je pense à une personne qui vraiment exerce une autorité qui n'est pas l'autorité, qui rend les autres auteurs, mais qui veut dire « moi je suis le chef et vous vous taisez ». Et puis j'ai eu l'occasion de l'observer dans sa vie personnelle, et c'était quelqu'un qui était quasiment soumis dans sa vie personnelle. Donc il y a tout un processus. Souvent, en analysant le profil de ces personnes, souvent, il y a des doutes que la personne ne veut pas exprimer, qu'elle colmate. Il y a des questions qui la dérangent. Et justement, comme je vous l'ai dit, le harceleur fuit la vraie communication. Parce que la vraie communication, c'est d'abord l'écoute de l'autre. Et tous les harceleurs, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel, ils ont quelque chose de commun. Ils ont un ego surdimensionné. Donc vous voyez, le moindre doute, eh bien on ne le fera pas voir parce qu'on ne veut pas paraître soi-disant faible. Ils ont une propension à nier les évidences, et c'est pourquoi la communication est très difficile. Et c'est pourquoi le harcelé, il est dans une situation où rien ne passe. Et donc ils ont ici ce qu'ils estiment être une force de conviction, parce que ces gens-là, ils vous lancent des phrases quasiment assassine, où la personne qui entend ça, elle est complètement en sidération. D'ailleurs, c'est leur objectif.
Oui, qu'on ne puisse pas leur répondre, voilà, même si on a exactement tous les éléments objectifs, mais qu'on soit tellement le souffle coupé.
Et le souffle, oui, la sidération, parce que le processus extrêmement violent, c'est de créer justement cette sidération et puis surtout d'isoler la personne. Parce que justement, ils vont avoir beaucoup plus d'emprise. Et comme souvent, et on verra peut-être dans le harcèlement qui est un harcèlement sexuel parfois, la personne a parfois honte, ou bien imaginons un responsable qui humilie constamment l'autre, eh bien la personne va dire « je suis nulle ». Et alors ce qui est extrêmement pervers, c'est que le harceleur va créer de la peur, va créer de la tristesse, va créer, voire du désespoir. Et la personne en question, elle va parfois avoir un comportement maladroit, une forme d'agressivité défensive. Et ce comportement maladroit va se retourner contre elle. Et ce harceleur va dire, vous voyez bien, vous voyez bien comment il m'a parlé ? Mais c'est une personne qui est folle. Et ça, c'est un mot qu'on entend très souvent et qui résonne d'une manière dramatique. Il est fou ou elle est folle. Mais vous voyez comment elle parle, c'est insupportable. Et tout à coup, la personne va être mise au banc.
Oui, par tout le monde, parce que tout le monde va croire le harceleur par une force de conviction très particulière.
Exactement. Et comme le harceleur a une tendance extrêmement violente d'inverser les rôles, alors les autres vont se dire « oh là là, on met de côté
oui, ».
Et puis comme l'autre montre une forme de fausse force, en physique on dirait une force faible, oui, eh bien évidemment l'autoroute du harcèlement est tracée.
Vous évoquiez l'ego surdimensionné des harceleurs. Oui. En préparant ce podcast, je suis tombé sur un article très récent, qui date d'il y a quelques jours seulement, évoquant le narcissisme, oui, qui est de mieux en mieux vu dans la société actuelle, là où il y a encore 15 ans, 20 ans, le narcissisme était totalement honni. Est-ce que vous sentez cette évolution ?
Je sens cette évolution lié à ce qu'on évoque souvent.
C'est les réseaux sociaux en partie, le fait de se montrer sur Instagram, bien sûr, etc.,
tout à fait, et alors allons plus loin, de se montrer, mais avec la face extérieure.
On se montre toujours plus beau qu'on ne l'est.
Oui,
hein.
Mais dans la réflexion, moi j'ai fait ma thèse de doctorat sur Carl Gustav Jung, et dans le processus d'individuation, il montre qu'il y a un masque, une persona, et justement dans les réseaux sociaux, on se montre avec son masque, la persona. Et donc ça évite des remises en question. On est là, et en plus, sur un plan sociétal, on observe la progression de l'individualisation. Il y a beaucoup de textes là-dessus. Donc, comme vous le dites, avant, il y avait beaucoup plus le collectif. Et maintenant, on a l'impression que souvent, le collectif est fait de la juxtaposition d'individus. Et il y a plus de murs que de ponts. Et c'est ça qui fait que la personne se sent isolée, rumine. Hein,
et pourtant, on voit dans le sport, je pense à certaines équipes de foot, que quand il y a 11 individualités et pas un collectif, ça se plante à chaque fois.
Exactement.
À terme, ça se plante.
Ça se plante parce que justement, la notion de lien. D'ailleurs, je parlais rapidement tout à l'heure de résilience. En fait, les éléments qui sont la résilience, c'est la notion de sens. Donc, s'il n'y a pas de sens partagé, eh bien, la personne est très vulnérable. Le deuxième élément, c'est la notion de lien. Qu'est-ce qui nous relie et non pas qu'est-ce qui nous sépare. Et le troisième élément, c'est une organisation basée sur des valeurs. Et ces valeurs-là, on a l'impression que le harceleur n'a qu'une valeur qui est son intérêt personnel, qui est être reconnu pour ce qu'il estime devoir être reconnu, alors que la partie, je parlais de la persona tout à l'heure, mais la partie dans l'ombre, c'est justement, eh bien celle-ci ne peut se voir que effectivement par des comportements qui peuvent devenir pathologiques. Pathologiques.
Alors on arrive bientôt à la fin de cet épisode de On sent pas pour vous. J'aimerais savoir comment se défendre lorsque l'on est harcelé, et puis aussi pensons aux harceleurs, parce que ce sont des personnes qu'il faut aussi aider finalement.
Ah oui. Alors comment se défendre ? Alors je suis pas juriste, mais il y a quand même au niveau de la défense pénale ou de la défense, il y a effectivement le fait déjà d'en parler et le fait parfois d'appeler un médiateur, c'est-à-dire un médiateur qui va essayer de faire la part de l'essentiel et ou du non-harcèlement. Donc il y a aussi sur un plan professionnel les représentants du personnel à contacter. Vous voyez, il y a déjà des choses formelles.
Et soi-même, retourner un petit peu, ça me fait penser à un épisode de Harry Potter hein, oui. où le prof leur fait sortir leur plus grande peur et leur dit vous faites une formule pour transformer cette peur en quelque chose de ridicule.
Oui, alors vous pensez à ça, puis je pense aussi à un autre film plus ancien, Le Cercle des Poètes Disparus.
Ah oui,
où justement,
capitaine, mon capitaine.
Voilà, c'était magnifique. et quand je le regarde à nouveau, je suis toujours très émue. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, ça rejoint ce que vous disiez précédemment, il y a un moment où le prof monte sur la table et dit, vous voyez, je suis sur la table, on est tous dans la même... Et je vois différemment. En fait, c'est cette notion de voir différemment. Mais il faut quand même être humble. La personne harcelée, vous pouvez lui expliquer qu'en fait, il y a un travail à faire sur la notion de représentation, puisque les émotions ne vont changer que si les représentations changent, et donc le comportement aussi. Eh bien, toute seule, elle n'y arrivera pas. Donc, il faut... Mais vraiment, ça, j'insiste vraiment, en parler. Il faut en parler, que ce soit qui que ce soit, idéalement parfois, pour quand le problème est grave, même un thérapeute qui va accompagner la personne. Parce que, vous savez, cette phrase qui ne s'exprime pas s'imprime, tout ce qui va être gardé par des ruminations intenses va détruire la personne. Donc, pour la personne, il faut en parler. Et puis, à partir du moment où la personne ne se sent plus humiliée et qu'elle reprend... Alors, il y a un entre-deux très difficile. Hein. Mmh. Comme je vous le disais, le harceleur, quand il voit qu'elle s'en va, il va accepter.
C'est le moment où il faut résister, justement, de plus en plus.
D'où la notion d'être accompagné, la notion, justement, de ne pas être... Parce que... On n'a pas parlé du harcèlement sexuel, mais...
On n'a pas le temps, malheureusement, mais ça pourra faire l'objet d'un prochain podcast.
Voilà, mais je dis juste, la personne, souvent, peut avoir honte de ce qui s'est passé et n'en pas parler. Et il y a un temps de prescription, hein, que ce soit dans le...
On le voit dans l'actualité, d'ailleurs, hein, voilà, une actualité très récente avec différents hommes de médias hommes politiques.
Et vous voyez, le processus, je reviens au processus identique, c'est de transformer la victime en coupable. Genre, c'est elle qui m'a aguiché, finalement, elle était d'accord, etc. Donc, c'est un schéma, j'insiste beaucoup sur la notion de perversion, parce que c'est faire le mal. Alors, là, le processus pathologique aussi... il ne va pas être facile de dénouer tout cela. Mais je crois que, vous voyez, votre émission et à quoi vous alertez les personnes, c'est vraiment très important parce qu'il faut travailler l'estime de soi et il faut ne pas prendre comme point de repère le comportement de quelqu'un d'autre qui est essentiellement dans le jugement. Il faut repérer quand une personne n'est que dans le jugement, que dans les reproches, c'est déjà les premiers pas du harcèlement. Voilà. Il faut développer une démarche factuelle.
Et pour le harceleur, si on remarque quelqu'un qui harcèle une autre personne, que peut-on lui dire ? Comment peut-on la mettre en garde en lui disant « fais gaffe, là tu vas trop loin ».
Alors, comme je vous l'ai dit, ils ont une conviction tellement forte qu'ils vont toujours trouver des fausses bonnes raisons de dire ce que j'ai dit était nécessaire à dire. Simplement, certains peuvent être alertés par les sanctions qu'ils peuvent avoir. Parce qu'attention, quand le harcèlement est démontré, ça peut aller très loin, hein, jusqu'à 30 000 euros.
Et c'est là qu'ils vont se sentir harcelés.
Pardon ?
Et c'est là qu'eux vont se sentir parfois harcelés.
Alors ils vont encore là se dire victimes alors que j'avais raison. C'est pour ça que c'est très complexe, c'est très très complexe. Alors il y en a qui, parfois, bien accompagnés, peuvent faire un travail sur eux-mêmes parce que finalement, rien ne changera sans cela. Mais il y en a qui estimeront qu'ils sont dans la juste direction et c'est très toxique. Des personnalités toxiques, la fuite, c'est parfois très nécessaire.
Merci beaucoup Francine Friedrich.
Merci.
C'était passionnant, on aurait pu rester des heures et des heures à discuter de ce sujet. On a essayé de le faire de façon un petit peu détendue, mais sujet ô combien sérieux. Merci Daniel. Daniel, quelques infos rapidement sur les juniors avant de conclure le podcast.
Je voudrais juste rappeler à tout le monde que vous pouvez voir notre actualité sur notre site réseaudesjeuniorsd'Alsace.org où vous verrez tout ce qu'on fait actuellement, autant les rencontres café que nos sorties sportives. qui s'appelle
Oui, avec
la tête
les beaux jours
les
qui arrivent.
Voilà.
C'est pas le cas aujourd'hui, mais il y en a.
Et puis toute l'équipe prépare, tout le monde est sur le pont pour préparer le 10e anniversaire. Espérons qu'il n'y a rien de négatif au niveau du Covid. On attend tous l'évolution. Donc voilà, on est.
On croise les doigts.
Voilà, on croise les doigts. Et puis merci à tous. Merci Emmanuel.
Merci à vous.
Merci à toi,
merci
Francine.
Merci Emmanuel.
D'avoir accepté de venir.
Mais c'était avec un très grand plaisir.
Voilà. Et à très très vite pour On s'emploie pour vous, le podcast des juniors d'Alsace en partenariat avec Top Musique.